Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble.
Aujourd'hui, nous nous aventurons dans un épisode spécial où les voix des ancêtres et les histoires séculaires prennent vie pour hanter nos rêves et ébranler notre raison. La France est un pays riche en folklore, en récits mystérieux et en créatures surnaturelles qui se cachent dans les recoins sombres de notre histoire. Alors préparez-vous à frissonner, à vous laisser emporter par l'inconnu et à plonger dans un monde où les frontières entre réalité et cauchemar s'estompent. Rejoignez-moi dans ce voyage terrifiant à travers les mythes et légendes françaises. Et ensemble, nous dévoilerons les secrets les plus sombres et les plus effrayants que ce pays a à offrir. Pour cette première histoire, nous partons rendre visite aux vrais et faux fantômes au château d'Ardivillers, en Picardie. Il ne reste que des vestiges de sa splendeur passée, mais l'inquiétante légende autour des fantômes qui auraient hanté le château d'Ardivillers persiste. Édifié dans les dernières années de l'Ancien Régime, le château d'Ardivillers, en Picardie, a été entièrement reconstruit et remeublé juste avant la Révolution française. L'imposant édifice, qui a appartenu à la famille de Barentin, dont l'un des membres fut le dernier chancelier de Louis XVI, n'a jamais été réellement occupé, malgré l'argent dépensé pour le restaurer. C'était en quelque sorte un château fantôme, un cadre rêvé, finalement, pour qui germent d'inquiétantes légendes de revenants. Les faits marquants se sont déroulés au XVIIIe siècle. Chaque année, période de la Toussaint, un esprit terrorisait la population d'Ardivillers. Ici, on parlait d'un fantôme, là, d'apparition d'anciens propriétaires du château ou d'esprits. Ces récits terrifiants empêchaient le propriétaire du château, qui ne vivait pas sur place, de louer ses terres convenablement. Depuis 4 ou 5 ans, il les bradait largement. Les fantômes inquiétaient suffisamment les paysans pour qu'on ne se bouscule pas pour travailler chez lui. Résolu à tirer des meilleurs bénéfices de son affermage, le propriétaire décida donc de venir en personne pour lever le voile sur ce qu'il présentait tenir de la supercherie. Il arriva donc sur les lieux à la Toussaint, accompagné de sa famille et de deux de ses amis, armés en conséquence. Le soir, ils se couchèrent tous dans sa chambre, dans l'attente d'une quelconque manifestation surnaturelle, bien décidés à prouver qu'il ne s'agissait pas d'un vrai fantôme. Leur plan initial était de tirer au pistolet sur la première apparition. Manifestement prudent, le fantôme du château prit cependant soin de ne pas se manifester dans leur chambre, mais dans celle de l'étage du dessus, à grand renfort de bruit de chaîne et de grincements inquiétants. Le propriétaire se leva d'un bond, prêt à monter dans la pièce d'où venait l'étrange tintamarre. Mais il en fut empêché par son épouse et ses enfants, terrifiés. Ses amis insistèrent également et le convainquirent de ne pas prendre de risques. Ceux-ci montèrent à l'étage à sa place, armes dans une main et chandelles dans l'autre, et entrèrent dans la chambre d'où provenaient les bruits étranges. Ils ne virent au début que fumée et feu, puis distinguèrent la silhouette d'un démon derrière les flammes. Vêtu de noir, pourvu de cornes et d'une longue queue, à l'aise dans le feu. Le courage d'un des deux compagnons faiblit. Ce dernier suggéra alors à l'autre de fuir devant cette apparition surnaturelle. Mais son camarade, persuadé, lui, que la fumée était issue d'une poudre à canon, n'était pas impressionné et refusa de quitter les lieux. Au contraire, il braqua son pistolet et tira sur le démon. Il lui fit face sans tomber et le contourna pour s'enfuir. L'apparition quitta la chambre et descendit. Le courageux gentilhomme se trouvait toujours à ses trousses, un peu ébranlé cependant par le fait que le démon n'avait pas scié à l'impact de la balle. Tous deux coururent à travers cour et jardin jusqu'à une grange. À l'intérieur, le démon se précipita derrière une porte que son poursuivant ne parvint pas à ouvrir avant de disparaître. Ce dernier trouva de l'aide et réussit à enfoncer la porte. Derrière, il découvrit le démon, ou plutôt, sous le masque de ce démon, le fermier du château, affublé de peaux de buffle sur le corps afin d'être protégé des balles. L'imposteur en fut quitte pour régler au propriétaire du château les sommes qu'il n'avait pu percevoir les années précédentes. Cela dit, même après le démasquage du faux diable, le château continua à être entouré d'inquiétantes légendes. Jacques Cambry, nommé préfet de l'Oise en 1800 par Napoléon, a publié en 1803 un recueil de ses pérégrinations dans le département. Il y relate, fasciné, un certain nombre de témoignages d'événements étranges et mystérieux, liés à des fantômes et autres revenants, ayant pour cadre le château d'Ardivilliers ou son parc. À présent, partons en Bretagne. Les amoureux pétrifiés de Belle-Île-en-Mer. Ils se sont aimés contre la vie des anciens. Mal leur en a pris. Les druides les ont sévèrement punis. Sur la bien nommée Belle-Île, en Morbihan, deux menhirs baptisés Jean et Jeanne se font face à une distance de 340 mètres, dans la lande à l'est du hameau de Quélédan. Ces vestiges du néolithique alimentent la légende tragique d'un amour rendu impossible par les conventions sociales. L'histoire se situe à l'époque où les druides dirigeaient la petite colonie gauloise qui vivait sur Belle-Île-en-Mer. Jean était barde et fils de barde, donc issu d'une famille riche. Jeanne était bergère, fille de berger et pauvre. Elle travaillait dur et ne possédait rien, pas plus que sa famille. Ces deux-là étaient fous amoureux l'un de l'autre, et se moquaient bien des contingences matérielles ou des conventions sociales de leur époque. Ils allaient se marier. Rien d'autre n'importait à leurs yeux. Ils avaient en commun la passion de la mer et de la nature, où ils aimaient se retrouver. Ni Jean, ni Jeanne ne pouvaient ignorer les codes qui régissaient leur colonie. Les druides et les bardes, considérés comme une caste supérieure, ne se mariaient qu'entre eux. Les jeunes gens feignaient tellement de l'ignorer que Jean alla trouver son père pour lui annoncer son amour et sa volonté d'épouser la belle Jeanne. Évidemment, le père de Jean entra dans une rage folle, ordonna à son fils de ne plus revoir Jeanne et informa le conseil des druides des projets impossibles des jeunes gens. Furieux, ceux-ci annoncèrent qu'ils interdisaient un tel mariage. Mais les amoureux n'en avaient cure et continuaient à se retrouver sur la lande, à jouer de la musique et à s'aimer, plus épris l'un de l'autre que jamais. Il réfléchissait à une solution. Finalement, Jean donna rendez-vous à Jeanne un soir pour lui soumettre une idée. À l'heure dite, la jeune femme sortit en toute discrétion de la maison de ses parents et fila entre Bruyères et Ajon retrouver l'amour de sa vie. Les jeunes gens ignoraient que les druides furieux, de n'avoir pas été respectés, avaient cherché les sorcières de Borgrois de régler le problème. Cette nuit-là, quand Jeanne aperçut Jean et voulut hâter le pas, ses jambes refusèrent de lui obéir. La jeune femme constata alors qu'elle était en train de se changer en pierre et voulut prévenir Jean. Trop tard. Les sorcières avaient fait d'elle un menhir. Le jeune homme avait assisté à la scène, mais littéralement pétrifié, ne put rien faire. Il était devenu rocher à son tour, condamné pour l'éternité à voir sa belle sans jamais la rejoindre. Ce que seuls les initiés savent, c'est qu'une fée avait assisté à la scène. Émue par la sévérité de la punition, elle décida secrètement d'alléger la peine des jeunes gens en leur permettant de se rejoindre la nuit, à condition d'avoir regagné leur place avant le lever du soleil. Ils se murmurent à ce propos que leurs nombreux enfants sont alignés sur le continent, à Karnak. Je suis sûre que vous n'en avez pas eu assez. Alors laissez-moi vous raconter une troisième histoire. Celle de la louve blanche du château de Beaufou. Le seigneur de Lavergne, près de Beaufou, était parti en croisade. Il se distingua sur le champ de bataille et séduisit une magnifique sarrasine, au doigt de laquelle il avait passé l'anneau de Lavergne, que l'on se transmettait dans la famille depuis Charlemagne. Le chevalier rentra dans son Poitou natal avec tenture, parfum, miroir et bien sûr sa somptueuse épouse. La dame était si belle que la légende vante encore ses charmes. Ses vêtements orientaux renforçaient son aura exotique. Elle avait, dit-on, le teint remarquablement pâle, de longs cheveux noirs qui cascadaient jusqu'à ses pieds, un port de reine et surtout un regard noir d'une incandescence peu commune. Le seigneur de Beaufou était très amoureux de sa femme, qu'il comblait d'attentions petites et grandes. Il fit abattre le château de ses ancêtres et reconstruire pour elle un palais d'une splendeur inouïe. Il lui forma une sorte de cour, dont elle était la souveraine incontestée. Il lui fit venir une jument du fin fond de l'Arabie, lui organiser fête somptueuse sur fête somptueuse. Il aurait volontiers continué à mener cette vie de roi avec son épouse, mais son suzerain en guerre fit appel à lui et le seigneur de Beaufou dut renfiler son armure. Il partit le cœur gros, mais sans crainte, assuré de l'amour de sa sublime épouse. Au château de Beaufou, un silence sinistre remplaçait les rires et les applaudissements des fêtes interrompues et des tournois. La belle Sarrasine tournait en rond. Elle attendait avec impatience les courriers de son mari. Peu à peu, l'absence de ce dernier se prolongeant, la solitude commença à peser bien trop lourd. C'est ainsi qu'un jour où elle se morfondait plus que les autres, elle ne repoussa pas le page qui vient lui faire des avances. Le lendemain, elle ne repoussa pas plus le deuxième, ni le troisième. Le jour suivant, ni tous les autres. Son comportement outrait dans les environs, mais elle n'en avait cure. Consciente que le feu qui la dévorait ne cessait de croître, elle se rendit par une belle nuit d'orage chez une sorcière renommée qui vivait près du village de Marché Gautreau. À compter de cette nuit-là, une louve blanche, à la tête d'une meute d'énormes loups, se mit à terroriser les environs. Il semait la désolation par monts et par veaux. Troupeaux décimés, enfants enlevés, personnes étranglées. Nul ne se risquait plus à sortir une fois le soleil couché. Trop dangereux. On ne savait jamais d'où surgiraient les bêtes. C'est dans ce contexte de tension que le seigneur de la Vergne rentra de la guerre, impatient de reprendre son ancienne vie. Il fut reçu à bras ouverts par sa femme, plus belle, les yeux plus brillants que jamais. Quand il apprit les ravages causés par la meute de la Louve Blanche, il souhaita éradiquer cette menace avant de réorganiser des fêtes. Il mena battu sur battu et poursuivit en vain la grande Louve Blanche. Il tua nombre de ses compagnons, mais elle lui échappait toujours avec une agilité déconcertante. Quand le soleil se levait, il rentrait au château, exténué, suivi par ses hommes, leurs chiens et leurs chevaux tout aussi exténués. Il retrouvait sa femme, les yeux toujours plus étincelants, son teint pâle un peu plus coloré que d'habitude. Elle le consolait de ses peines, et le lendemain soir, il repartit à la chasse, sans comprendre comment la meute de loups grossissait au lieu de diminuer, et où il trouvait l'audace de descendre hurler jusque dans les fossés du château. Enfin, une nuit où il avait scellé son coursier le plus rapide, un pur sang venu d'Orient, le seigneur distança ses hommes, rattrapa la louve et lui trancha la patte d'un coup d'épée. Un gémissement effroyable s'éleva, terriblement. Terriblement humain. La louve s'enfuit, sa patte tranchée gisant au sol, dans une mare de sang. Glacé d'effroi par le cri de l'animal, le seigneur de la Vergne descendit de cheval pour ramasser la patte. Mais il trouva à la place une main de femme délicate. Un anneau bien trop familier glissait à l'un de ses doigts. Le cœur affreusement serré, il rentra au château au triple galop et se précipita dans les appartements de sa femme. Il la trouva allongée, à demi consciente. De son poignet, auquel il manquait la main, le sang jaillissait. Ivre d'horreur et de fureur, le chevalier jeta sur son épouse bien-aimée la main tranchée et tira son épée. Frappe-lui. J'ai mérité ce châtiment. Je succomberai cependant moins sous ton fer que sous les remords qui m'envahissent. Je demande à Dieu de permettre à mon âme d'errer, visible sur le lieu de mes crimes, afin de servir d'exemple. Tant que le château a existé, on a vu le fantôme de la belle Sarrasine apparaître de temps à autre, comme un appel au repentir, à la veille d'un décès au village.